prions ensemble. Notre Père céleste, nous voulons te remercier ce soir. Nous venons tenir devant toi avec nos cœurs. Nous te remercions pour ce jour, ce nouveau jour, ce merveilleux jour que tu as créé. Afin que nous puissions nous réjouir en cela. Que nous puissions observer ta bonté et ta toute puissance. Seigneur, nous nous tenons devant toi maintenant. Et nous te demandons en toute humilité, nous exposons nos vies devant ta présence. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses continuer à relever, réveiller ton œuvre, afin que ton nom puisse être sans cesse loué en tout temps. Seigneur, merci pour le message que tu nous as donné ces jours. Et nous t'avons fait confiance en accord avec tes promesses. Comme tu as promis au prophète Zacharie, non pas par ma pensée, mais ni par ma puissance, mais ton pouvoir à toi. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Afin que nous puissions vivre d'une façon qui puisse glorifier ton nom. Nous te demandons tout cela en ton nom. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Mpungos. Alors, les mots me manquent. Et si vous aviez la possibilité de voir mes jambes, vous verriez qu'elles tremblent. Parce que le cœur est plein. Et nous ne savons pas où démarrer et où terminer. Parce que ce pupitre, c'est celui de Baba Mfundisi. Et ce qu'il nous a enseigné au travers des années, nous ne voulons pas simplement le rejeter, le gaspiller. Nous ne souhaitons pas rabaisser le standard. Baba Mfundisi est très reconnaissant pour chaque pasteur qui est présent ici aujourd'hui, ces jours. Il peut nous voir, il peut nous entendre. Tout ce qui se passe en ce moment ici, il peut le voir. Et son cœur se réjouit pour chacun d'entre nous qui est ici. Pasteur Stegen, je peux l'appeler papa. Et ce soir, nous voulons partager ce que nous avons appris de lui. Mais avant de le présenter, je vais demander à la grande chorale de venir de l'avant. chorale qui se tient devant vous. Désolé, c'est pas une chorale. Ça, ce sont les enfants d'Anclerlo, ses petits-enfants et ses gendres. Malheureusement, ils ne sont, pas tous là. Chacun d'entre eux a quelque chose sur son cœur. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas donner à chacun une occasion de parler. Nous allons demander à la fille aînée du pasteur Stegen de venir et de dire ce qui est sur son cœur. Et ensuite, l'une des deux jumelles va parler. Je ne pense pas que vous... Je ne suis pas sûre si vous savez qui sont les jumelles. Comme nous sommes encore ensemble jusqu'à demain, vous aurez encore l'occasion de pouvoir deviner qui elles sont. C'est un grand privilège de pouvoir être avec vous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation du pasteur Stegen pour venir à cette conférence. Le pasteur Stegen se réjouit vraiment de cela. Et il souhaite que nous transmettions ses salutations. Lorsque nous avons chanté ce chant, Ainsi je t'envoie, j'ai dû penser au pasteur Stegen. Cela a été sa vie. Comme vous l'avez entendu, je suis la fille aînée de 6 filles. Nous avons encore le privilège d'avoir notre père avec nous. Mes parents étaient mariés pendant 30 ans et ensuite ma maman est décédée. Et cela fait 20 ans que mon papa vit seul, mais nous sommes reconnaissants pour tout ce temps où Dieu l'a préservé avec nous. Regarde avec nous. Il y a beaucoup de choses que nous avons entendues de lui, qu'on a appris de lui dans Deutéronome 6, à partir du verset 6, nous devrions enseigner nos enfants les grandes choses que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est ce que notre Père a fait avec nous. Il a souvent partagé sur son ministère et comment Dieu l'a guidé. Son appel était différent de beaucoup d'autres, de bien d'autres appels. Il nous disait ne regardez pas votre famille et pensez que les choses doivent être de la même façon parce que les choses vont être différentes. La vie de notre Père a été une vie où il a servi les autres et il s'est donné pour les autres. À partir d'un jeune âge, il a commencé à prêcher en 1952. Peut-être que vous avez la connaissance que à cette époque, les situations politiques étaient différentes et qu'il y avait l'apartheid entre les Noirs et les Blancs, les Indiens et les Métis. Mais ce qui fait partie de l'appel de notre Père, c'était que chacun devait être un ensemble. Il disait souvent, il n'y a qu'un seul ciel. Si nous ne pouvons pas nous entendre sur la terre, comment allons-nous pouvoir nous entendre au ciel. C'est ce qu'il disait si souvent. Le Seigneur Jésus nous a donné cet exemple. En lavant les pieds les uns des autres, et c'est l'exemple de Jésus qui nous a laissé. Et c'est la vie que nous pouvons témoigner, que nous avons vu nos pères, notre Père le vivre. Non seulement mon Père, mais notre Mère également. Non seulement il a prêché et a parlé, mais il a également vécu ce qu'il disait. Que nous avons appris de notre Père, c'est de servir les autres, trouver la joie dans le fait d'être ensemble, vivre dans l'unité. Je me rappelle, en tant qu'enfant, lorsque nous avions des visiteurs dans la maison, si souvent mes parents sortaient de leur chambre et allaient loger, peut-être même dans une salle de bain. Mais ils l'ont fait avec joie. Cela leur a donné de la joie de pouvoir servir son prochain. Et Cela est l'un des points que notre Père nous a enseigné pour que nous puissions continuer de la même façon. Il a toujours, il pensait toujours à son prochain. Est-ce qu'ils ont quelque chose pour manger? Est-ce qu'ils ont de quoi s'habiller, se vêtir, se loger? Quand notre mère est décédée, elle nous a laissé avec ce message de pouvoir continuer. S'il vous plaît, pensez à nous dans vos prières. Tout particulièrement, comme notre Père nous a donné ce trésor précieux, que nous soyons fidèles pour le garder et le protéger, afin que cet évangile puisse atteindre le fond de la terre, les extrémités de la terre. Notre Père a traversé beaucoup de choses, même en tant que petit garçon et tout le long de son ministère. Ce soir, vous allez également voir quelques exemples des histoires qu'il avait l'habitude de nous raconter. Et c'est notre prière que ce que nous voulons vous transmettre ce soir et vous partager puisse être une bénédiction pour vous. Nous voulons saluer chacun ce soir. Nous sommes les jumelles. Hier soir, notre Père nous a donné ce défi de commencer à Jérusalem, là où nous a placés. Nous avons le privilège de vivre avec Papa, et la vie de Papa a prêché bien plus que ces paroles qu'il nous a enseignées. Et j'aimerais également inclure notre mère, même si elle n'est plus en vie. Pendant le temps qu'elle était avec nous, on a pu ressentir la même chose. Nous, en tant qu'enfants, n'ont jamais vu nos parents se parler une parole qui n'était pas rempli de gentillesse et aucun argument. Et c'est pourquoi j'ai une question ce soir. Qu'est-ce qui ressort de ma vie? Est-ce que nous, en tant que prédicateurs, nous mentionnons des paroles qui ne sont pas remplies de gentillesse? Est-ce que nous permettons une pensée méchante lorsque nous sommes assis autour de la table avec nos enfants, est-ce que nous transmettons des paroles qui cassent notre frère ou notre sœur devant eux? Nos enfants ne pourront jamais honorer cette personne et leur sang sera dans nos mains. Nous aimons prêcher et avoir la forme de sainteté alors que notre vie à la maison est pourrie. Si nous tolérons quelconque péché dans notre vie, nous ne sommes pas un vase pur pour transmettre la vie. Nous, en tant qu'enfants, nous avons été mis au défi que s'il y a quelconque péché dans notre vie, nous ne pouvons pas continuer dans ce ministère avec notre Père. Papa a dit une fois, mon business, mes affaires n'est pas de faire des miracles, de sauver des âmes, de prêcher l'évangile, mais de faire sa volonté. Et je sais que sa volonté pour moi est qu'il n'y ait rien entre lui et moi. Puissions-nous utiliser cette occasion pour examiner nos vies et veiller à ce qu'il n'y ait rien entre lui, entre le Seigneur et nous. Merci. Que nous pourrions dire. Pasteur Stegen nous a enseigné à se donner à 100%. Rien de moins. Et si tu peux donner plus que 100, alors tu donnes plus que 100. Et ça, ce que le pasteur Stegen a prêché, il l'a vécu. Ce qu'il a prêché, c'est ce qu'il a vécu que nous pouvons... Nous ne pouvions rien pointer du doigt. Il n'y avait rien à redire. Et ça, c'est notre prière. Que nous puissions prendre cela et courir de l'avant avec cela. Que cela ne passe pas au travers de nos doigts, nous échappe, mais que cette relation avec moi et le Seigneur est toujours propre. Il n'y a aucun péché, aucune pensée qui puisse se mettre entre le Seigneur et moi. qu'il n'y a rien qui se mette entre moi et mon Sauveur. Nous allons maintenant regarder à une vidéo et ensuite je demanderai à la vidéo et ensuite je vais demander à Nico de venir de l'avant. Merci. Maman, qu'est-ce que tu lis? J'ai vu ce livre sur l'étagère et j'ai décidé de le relire. De quoi s'agit-il, Tati Urda? C'est l'histoire de Gopapa, comment elle a été appelée par Dieu parmi les Zoulous. Peux-tu nous le lire, s'il te plaît, maman? Je préfère te raconter l'histoire. Ah oui, s'il te plaît. Alors, asseyez-vous ici près du feu. Gopapa était un petit garçon comme vous les enfants. Vous savez quoi? Il aimait le sport, il aimait l'agriculture et il aimait l'argent. C'est pour ça que j'aime tant le sport. Pas étonnant que j'aime l'agriculture. Quoi qu'il en soit, les enfants, la devise de Gopapa était « l'argent d'abord, le reste plus tard ». Il était déterminé à gagner de l'argent grâce à l'agriculture et au sport. Il refusait de perdre son temps sur des choses que les autres garçons faisaient et il avait comme but d'être millionnaire à l'âge de 21 ans. Est-ce que tu as bientôt fini? Je préférerais être un professeur qu'un fermier. C'est bien mieux qu'un fermier. Et tu verras un bon professeur. Ah. Ah, tu veux me confronter? Alors on va voir qui c'est qui arrive en premier. Il allait cependant à l'église comme sa famille. Il mangeait des bonbons pendant le culte du dimanche et rêvait du repas de midi après l'église. Sur le chemin du retour, lui et ses frères se disputaient. Mais quand il avait 15 ans, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Il a mis sa vie en ordre avec ses parents et ses frères, ses amis, et ils ont réalisé que rien ne le retiendrait. Et à cause de cela, vous savez ce qui s'est passé? Il a perdu tous ses amis. Et Gopapa a passé des heures à étudier la Bible. Il mémorisait de nombreux versets et psaumes. Il aimait son Nouveau Testament et l'emportait tout le temps avec lui. La Bible était le livre le plus doux et le plus précieux pour lui. Est-ce qu'il a arrêté vraiment le sport? Gopapa estimait que les promesses de la Bible valaient bien plus que de gagner de l'argent ou de jouer au tennis. N'était-ce pas ce moment qu'il a quitté la maison, Tati Hulda? Non, c'était la première étape. Que veux-tu dire? Gopapa a assisté à une conférence loin de chez lui. Là, il a réalisé ce qu'il en coûterait de servir Dieu en tant que missionnaire à plein temps. Il serait pauvre, son rêve de devenir un agriculteur prospère se serait envolé. Il ne gagnerait jamais un titre national de tennis. Il devait quitter sa famille et tout ce qui lui était cher. Pour sortir de ce dilemme, il pensait pouvoir gagner de l'argent en cultivant et soutenant financièrement l'œuvre de Dieu. Mais il avait besoin d'un verset biblique pour confirmer que cette idée était la volonté de Dieu. Il s'est éloigné de la foule et a prié « Seigneur, je veux être fermier. Je veux que ma maison soit ouverte afin que les réunions de prière et les études bibliques puissent y avoir lieu. Je soutiendrai les missions et l'Église. Dieu, je ne voudrais pas faire cela tout seul. J'aimerais que tu sois avec moi et que tu apposes ton sceau pour que je sache que c'est ta volonté pour ma vie. S'il te plaît, donne-moi un verset de l'Écriture confirmant que c'est la bonne voie pour moi. » Il a ouvert la Bible dans Matthieu 4, 19. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Gopapa était en colère et provocateur. Eh bien, mon Dieu, dit-il, alors je vais te montrer. Je vais faire ma vie sans toi. Si tu n'es pas prêt à aller avec moi, je ne suis pas prêt à aller avec toi. Pendant 18 mois, Gopapa a connu l'enfer sur terre. Il s'est lancé dans différentes activités. Donc, il a été sélectionné pour la... Il s'est qualifié pour l'équipe nationale de tennis des moins de 16 ans. Mais il était désespérément malheureux. Le coût de la désobéissance était 1000 fois plus élevé que celui de l'obéissance. Comment Gopapa s'en est-il sorti? Un jour, il s'est senti poussé à s'agenouiller à côté de son lit. Il a attrapé la Bible qu'il avait autrefois tant aimée. Il a alors pris conscience que Dieu l'aimait toujours. Son cœur a fondu et la résistance envers Dieu a commencé à s'effondrer. Submergé par l'amour de Dieu, il a cédé, a pleuré et a demandé pardon à Dieu et sa direction. Dieu a renouvelé son appel sur sa vie à travers le défi de Jean 21. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus répondit, paie mes agneaux. Il a dit de nouveau, Pierre, m'aimes-tu ? Il dit, oui, je sais tu sais que je t'aime. Et il a dit la troisième fois, Simon, est-ce que tu m'aimes? Paix, mes agneaux. Jésus a dit. Il est allé à la cuisine voir sa mère. Maman, je ne peux plus résister à la volonté de Dieu pour ma vie. Je consacre ma vie à devenir pêcheur d'hommes. J'ai presque cet âge. J'imagine à quel point cela a dû être une décision difficile pour lui à cet âge. À bientôt, papa. Merci pour tout. Que Dieu soit avec toi. Mais qui s'occupera de lui? Où va-t-il rester? Que va-t-il manger? Je ne sais pas, maman, mais Dieu le sait. Il n'a que 17 ans. Je sais que Dieu l'a rencontré quand il avait 13 ans. Comment va-t-il s'y prendre? Qui va l'aider? Dieu le sait. Tati Hulda, où est-il allé? Il est allé directement là où les Zoulous sont restés, dans leur maison, et leur a parlé de l'amour du Seigneur Jésus. Bonjour, connaissez-vous le Seigneur Jésus, celui qui est mort sur la croix? Ah, Mfundisi, pasteur, qui est-ce? Peut-être vous pouvez demander à Kwadlamini, ils peuvent vous dire où il est et comment il est mort. Jésus est mort pour tout le monde, il est venu sur cette terre pour vous sauver même de vos péchés. N'est-il pas seulement le Dieu de l'homme blanc? Parlez-moi de votre Jésus. Je suis fatiguée de ma vie pécheresse. Je veux aussi le servir. Et donc, il est allé de maison en maison, obéissant à l'appel de Dieu. Bonsoir, Tati Hulda. Comment allez-vous? Maman nous raconte l'histoire de Copapa. Tati Hulda, combien de temps Copapa est-il allé de maison en maison? Ce n'était pas toujours facile à pied dans ses premières années. Plus tard, il a prié pour un vélo afin qu'il puisse atteindre plus de gens. Et Dieu lui en a donné un. Puis, il a prié pour qu'un baki aide à emmener les gens au culte où il a planté sa tente. Était-il seul pendant tout ce temps? Oui, mon garçon. Il a tout fait lui-même. Il s'est rendu aux endroits où il tenait le culte, a monté la tente, est allé chercher les gens, a tenu les cultes, les a conseillés et les a ramenés chez eux. Mais maman, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui aident. Et pour cela, vous devez remercier Dieu. À cette époque, il devait cuisiner sa propre nourriture quand il en avait l'occasion. Et qu'est-ce qu'il a mangé, Élie? Il n'a pas toujours eu grand-chose, mais Dieu a fourni de manière remarquable. Cela me rappelle l'histoire où il a planté sa tente dans un certain endroit. Bonjour, maman. Bonjour, pasteur. Une poule a pondu cet œuf dans ma tente. Est-ce le vôtre? Ah, pasteur, la poule l'a déposée dans votre tente. Elle vous appartient donc. Un grand merci. Dieu savait que Copapa avait besoin de protéines. Alors, il lui a envoyé la poule pour lui. Cette poule y pondait un œuf tous les jours, aussi longtemps que Copapa était dans cette région. Bonjour à vous tous. Baba, Nous parlions de la façon dont le pasteur Stegen a commencé à prêcher au début. Et vous a-t-elle dit comment ma famille a rencontré le pasteur Stegen et comment cela a changé nos vies? Non, Baba. Pouvez-vous nous le raconter? Mon père était alcoolique et quand il rentrait ivre à la maison, il y avait toujours des problèmes. Et toi, femme, où es-tu? Où est ma nourriture? À qui pensez-vous que vous parlez? Vous, le paresseux limaçon, si vous n'avez pas toujours bu, nous avons peut-être de la nourriture sur la table. C'était notre vie quotidienne jusqu'à ce que Baba Fundisi vienne à Mapumulu. Nous avons remarqué un changement chez ma mère. Elle traitait mon père avec respect, même quand il était ivre. Un jour, le pasteur Stegen a rencontré mon père sur la route. Bonjour, Doubé. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, pasteur Stegen, j'ai le rhume. J'ai la grippe, je ne suis pas très bien. Puis-je prier pour vous? S'il te plaît, pasteur. Seigneur Jésus, voici Baba Doubé. Il ne va pas bien. Pouvez-vous, s'il te plaît, l'aider à aller mieux? Merci, pasteur. Salut Doubé, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps aujourd'hui? Regardez, j'ai une bouteille pour nous. Il semble que ce soit trop fort pour vous aujourd'hui. Donne-moi. Qu'est-ce que vous avez fait à cet alcool? J'ai trompé le pasteur blanc. Jésus est entré dans cette bouteille. C'était la dernière fois que mon père a touché une bouteille d'alcool. Dieu l'a rencontré d'une manière étonnante. Il a complètement changé et pour la première fois, il y avait la paix à la maison. Eh bien, je dois y aller maintenant. Mais Hulda continue à raconter aux enfants l'histoire du réveil. Il est important qu'ils l'apprennent. Merci, Baba. Tati, donc le réveil a commencé peu de temps après que Gopapa saute à Mapumulo. Avant le réveil, Gopapa a connu une période très difficile car il considérait l'état des chrétiens. Quand il tenait des cultes dans différents endroits, des milliers de personnes donnaient leur cœur au Seigneur Jésus. Ils sont devenus chrétiens, mais ont continué à vivre des vies mondaines. Gopapa essayait toujours de régler les querelles entre eux. Il était tellement découragé quand il a réalisé qu'il ne semblait pas y avoir de fruits durables après les conversions des gens. Cela le troublait profondément et tout le monde autour de lui pouvait voir qu'il était troublé. Seigneur, je ne peux plus supporter cela. J'ai travaillé dur pendant 12 longues années. Je prêche et beaucoup de gens sont convertis. Mais quand je regarde leur vie, ils se disputent. Ils retournent en arrière. Ils sont immoraux. Ils sont comme le monde. Y a-t-il même un seul vrai chrétien parmi tous les convertis? Ce que je vois n'a aucune ressemblance avec l'Église mais primitive. Seigneur, que dois-je faire? Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Dans Jean 7, 38, nous lisons « Quiconque croit en moi, comme les Écritures l'ont dit, de son être le plus profond coulera des fleuves d'eau vive. » Je n'ai qu'une seule question. Y a-t-il des rivières, des fleuves d'eau vive qui coulent de vos vies? Non, pasteur. je ne les vois pas non plus couler de ma vie. Examinons-nous, même par rapport à la Bible, pour voir si nous croyons comme les Écritures l'ont dit. Et donc Dieu a commencé à purifier les cœurs et les vies de ce petit groupe de croyants. Et a mis Gopapa à travers un moulin que la plupart des autres n'auraient pas été disposés à traverser. Que veux-tu dire, Tati Elie? Je ne comprends pas. Dieu a commencé à enseigner à ses saintes normes. Quand Gopapa est allé à une réunion avec ses aïeux, le magistrat, le maître de la poste et d'autres jouaient au tennis juste de l'autre côté de la route. Et le voilà sur le point de prier avec les Zoulous. Rappelez-vous que c'était lors d'un apartheid en 1966. Il était inouï pour les Noirs et les Blancs de faire quoi que ce soit ensemble. Les Blancs sud-africains ne pouvaient pas s'entendre avec les Noirs et les méprisaient même. Que dois-je faire? Comment peut-on me voir prier avec ces Zoulous? Que vont-ils penser de moi? C'est tellement humiliant. Je sais, je vais juste fermer la fenêtre, puis ils ne pourront pas nous entendre. Gopapa a vu les paroles de Jacques 4, 6 en caractère gras à travers la pièce. Dieu résiste aux orgueilleux. Seigneur Jésus, pardonne-moi. De prier avec mes frères Zoulous. Il s'est rendu compte que son orgueil avait gardé Dieu à l'extérieur de son ministère pendant 12 ans. Gopapa réalisa qu'à cause de son orgueil, Dieu lui avait résisté toutes ces années. Il pensait que le diable lui résistait, mais il réalisait que c'était Dieu. Il menait une bataille perdue d'avance. Dieu l'a pris par la peau de son cou et l'a emporté avec lui. Dieu l'éloignait. Il avait toujours été occupé avec les autres et leurs péchés. Maintenant, il l'oubliait et il était sous les projecteurs. Pardonne-moi, j'ai eu honte de prier avec mes frères Zoulous. S'il te plaît, enlève cela de moi. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a continué à montrer à Gopapa son propre cœur maléfique. « Herlot va apporter le sac de cet homme pour lui. Il est en grande difficulté. Seigneur, c'est un pas de trop. Dois-je même être leur serviteur? Si tu n'es pas prêt à être le serviteur de tous, alors arrête de prier pour le réveil. Baba, puis-je s'il te plaît vous aider à porter votre sac pour vous? How? Un homme blanc qui porte mon sac? Cela ne s'est jamais produit auparavant. Ici se trouve ma maison. Merci beaucoup, Baba. C'est la première fois. Je me souviens que Gopapa nous a raconté cette histoire. Et à quel point il se sentait privilégié qu'une personne zoulou l'appelle Baba pour la première fois de sa vie. Dieu l'a mis au défi à travers une leçon douloureuse l'une après l'autre. Il a vu à quel point il était opposé et était encore vivant dans le monde. Chaque fois qu'une décision devait être prise, Gopapa réalisait qu'il considérerait d'abord ce que les gens disaient, les facteurs humains, et non Dieu, qui aurait été à la base de ses actions et de ses réponses. Aimez-vous votre prochain comme vous-même? Es-tu le serviteur de tous? Non. Quand vous mangez, quand tu manges, te soucies-tu de ce que les autres ont à manger? Non. Ce que tu as fait pour le moindre à tes yeux, tu me l'as fait pour moi. Seigneur, tu as révélé la tiédeur, l'insensibilité et la dureté de mon propre cœur. S'il te plaît, change mon cœur. Gopapa nous a appris ce que signifie d'aimer son prochain comme soi-même. Il n'a jamais discriminé les autres, peu importe qui ils étaient, parce qu'il était prêt à permettre à Dieu de le changer. Les enfants, le Seigneur Jésus regardait du ciel. et il ne pouvait plus se contenir. Mais il est descendu pour rendre visite à Dieu, pour rendre visite aux croyants qui cherchaient Dieu de tout leur cœur. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu en puissance. Nous avons été convaincus par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous a convaincus et on a commencé à confesser. Et alors que Dieu était en train de travailler parmi nous au travers de sa parole, il a commencé à œuvrer. Il se vend. Le Seigneur a commencé à également œuvrer à l'extérieur. Il n'y avait pas d'annonce de cloches qui ont sonné. Mais la première personne qui est devenue sous conviction de péché était une sorcière qui a dit « Je suis liée par des chaînes de l'enfer. Est-ce que Jésus peut me libérer ?» Et on a prié pour elle et elle a été libérée. Son visage rayonnait. Elle ressemblait à une sainte qui avait été dans la présence du Seigneur pendant 12 années. Et ensuite, un autre et une autre. Il disait, nous sommes troublés, nous n'avons aucun repos. Nous avons commis telle chose et telle chose. Est-ce que Dieu peut nous libérer? Et d'autres personnes se rajoutaient. Et il y a eu plus de gens qui sont venus que dans les dernières 12 années. Dieu a allumé son feu et s'est répandu dans les vallées et les montagnes, de sorte que des milliers de personnes ont été sauvées en une semaine, oui, même en une journée. Pendant 2 ou 3 mois, ils étaient tellement occupés qu'ils dormaient à peine. Parfois, ils n'avaient pas le temps de manger ou de changer de vêtements. Un Tati Ruth, nous n'avons pas encore entendu parler de Gomama. Parle-nous d'elle, s'il te plaît. Le mariage était la dernière chose à laquelle Gopapa pensait. Il ne se préoccupait que de prêcher l'Évangile. Mais Dieu lui a clairement montré qu'il devait se marier. Et Dieu lui a aussi montré qu'il devait l'épouser. Gopapa était très inquiet qu'une femme lui fasse perdre sa concentration dans son travail pour le Seigneur, comme il l'avait souvent vu chez les autres. Il a demandé à Gomama, avant qu'elle n'accepte de l'épouser, si elle était prête à ce que ce soit toujours Dieu d'abord dans sa vie, puis l'œuvre de Dieu, puis sa femme. Il était engagé en 100% dans l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qu'a dit Gomama? Elle n'était pas du tout offensée. Sa réponse était le 100% de Gopapa et son 100%, il donnerait 200% au Seigneur. Il savait que c'était la volonté de Dieu et le mariage a eu lieu en 1972. Les enfants, Gopapa a été un pionnier à bien des égards. C'était presque inouï pour un homme blanc d'inviter des Zoulous à son mariage. Mais Gopapa l'a fait. Il a donné l'exemple et est devenu un précurseur pour briser les barrières raciales. Et plus tard, les gens ont suivi son exemple. J'aurais aimé connaître Gomama. Tout le monde me dit toujours combien elle aimait le Seigneur et soutenait Dieu dans son travail. En 1996, Gomama est tombée malade d'un cancer. Après quelques années, nous avons réalisé qu'elle était en train de mourir. Le soir, elle m'a demandé d'appeler Gopapa. Il est rapidement venu et lui a tenu la main. Et puis, je n'oublierai jamais. Elle a dit avec un visage rayonnant, « Le roi arrive. » Un peu plus tard, elle a dit, « Il est venu. » Peu de temps après, son roi céleste est allé le chercher. Je suis tellement triste d'avoir manqué cette réunion. Alors, je suis sûre qu'ils vous ont parlé de l'une de ses grandes passions. Pas de papa, qu'est-ce que c'est ? L'agriculture, bien sûr. Gopapa aimait l'agriculture et pendant de nombreuses années, c'est ce que lui et ses collègues ont voulu faire pour soutenir l'œuvre du Seigneur à la mission. Voyez, Gopapa était une personne très pratique. Il a toujours pris le temps d'enseigner les rudiments de l'agriculture, la fertilisation et la récolte. Il se souciait des gens spirituellement, mais faisait aussi de son mieux pour les soutenir physiquement. Et les enfants, je pense que l'un des secrets du succès de son ministère réside dans cela. Non seulement prêcher, mais vivre la parole de Dieu. Et parce qu'il est fidèle, Dieu l'a béni et aujourd'hui, vous savez tout sur l'agriculture d'Mseni. Gopapa a commencé de nombreux autres projets. Le but est toujours de soutenir l'œuvre du Seigneur. Regardez autour de vous, les enfants, vous le savez déjà, mais c'est l'œuvre. Thank you. Il y a encore un projet. Devinez, est-ce que vous devinez ce que c'est? Aquelé, maman. Oui, mais savez-vous tous comment cela a commencé? S'il te plaît, dis-nous, Tati Ruth. En 1972, une jeune fille Zoulou a rêvé qu'il y avait un trésor sous la terre. Elle pensait qu'il y avait de l'or sous la terre. Elle a commencé à trouver, à creuser, et on a trouvé de l'eau. Parlez-nous de certains des miracles. Et alors elle dit, les miracles n'ont jamais été au centre de la prédication de Gopapa. Le repentir du péché et des anciennes façons de vivre a toujours été le plus important. Cependant, quand les gens changeaient leur vie, Dieu les guérissait souvent physiquement. Je me souviens d'un incident qui s'est produit dans la région de Msinga. Une femme aveugle se tenait à côté de la route avec une fille qui essayait d'arrêter le véhicule qui emmenait les gens au culte où Gopapa prêchait. Je voudrais aller au culte. Ne vois-tu pas que le bus est plein, le camion est plein? Je dois me rendre au culte. Mais je dois y aller. Non, non, nous, on ne descend pas. Mère, je suis vraiment désolée, je ne peux t'aider. S'il te plaît, aide-nous. Personne n'était prêt à manquer le culte. Et avec des larmes, la dame est rentrée chez elle. Et lorsque les gens ont été ramenés chez eux, la même dame se tenait au même endroit à côté de la route. Vous êtes encore ici? J'ai été guérie. À quelle heure ça s'est passé? Ça s'est passé au moment, à la même heure que la réunion. Dieu est bon. Les enfants, Dieu regarde le cœur. Il a vu le cœur de cette dame, même si elle n'était pas au culte. Mais le plus grand miracle est quand le Seigneur Jésus sauve les gens de leur propre cœur mauvais et de la puissance du péché. Cela se produit dans tant de vies, même à ce jour. J'étais emprisonnée, frappée, j'ai rejoint un groupe satanique et je suis arrivée à Sisabantou en 2015. Ils m'ont parlé du Seigneur Jésus et ils ont dit que la confession et la repentance étaient à la source. Et alors j'ai fait cela et j'ai amené restitution. Les enfants, vous ne devez jamais oublier l'une des leçons les plus importantes que Dieu nous a enseignées est l'obéissance au Seigneur. Une obéissance exceptionnelle. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire, s'il se fait tard. Une nuit, très tard, Gopapa a ressenti un lourd fardeau pour un homme âgé qui vivait à 145 km de la mission. Il ne comprenait pas l'urgence, mais obéissant à l'inspiration du Seigneur, il est monté dans sa voiture et s'est rendu chez l'homme. Il a trouvé l'homme à une heure avancée de la nuit, pas à la maison, mais à côté de la route. La voiture de cet homme était tombée en panne à côté de la route. Il faisait froid et l'homme était vieux, âgé et avait du mal à marcher. Il a demandé à Gopapa qui l'avait envoyé. Qui l'avait envoyé? Et Gopapa a répondu que le Seigneur Jésus l'avait envoyé. Gopapa a ensuite ramené l'homme chez lui, dans sa voiture. En chemin, le cœur de l'homme a été profondément ému et il a donné son cœur au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur. Et ça, c'était le résultat de l'obéissance de Gopapa à Dieu. Même si cela n'avait aucune logique, aucun sens, il a obéi. Eh bien, il y a tellement plus que nous pourrions raconter. Beaucoup de gens se sont sentis attirés par cette œuvre de Dieu et ont fidèlement servi le Seigneur avec lui. Dieu a confié à chaque chrétien un héritage précieux. Cet évangile étonnant, son amour et sa vie éternelle qui vaut bien plus que tout dans ce monde. Et l'œuvre que Dieu a commencée grandit encore aujourd'hui. Chantons un chant avant que tout le monde ne s'endorme. Qu'aimeriez-vous chanter? Nous remercions Seigneur pour ce que nous avons pu regarder à nouveau. Pardonnez-moi si je rajoute quelque chose. J'ai écrit tellement de points, mais je vais les mettre de côté parce que sinon je pourrais parler toute la nuit. Mais quel témoignage de Baba. Quelqu'un a dit, si tu veux faire confiance à un homme, alors regarde à ses enfants, parce que c'est eux qui savent le plus. Il le voit quand les choses vont bien, il le voit dans les temps difficiles, il le voit en tout temps. Et ça, c'est ce que nous pouvons dire en tant qu'enfants. La vie de Baba nous a inspirés à servir le Seigneur. Voir un homme, non pas seulement quand il prêche au pupitre, mais le voir vivre. Jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a certaines choses qu'il nous a enseignées, non pas seulement à nous, enfants, mais à l'Assemblée. Et je ne veux pas les répéter, nous avons entendu beaucoup de choses. Mais Baba a souvent dit, le réveil commence ici, par moi. Cela doit démarrer dans ma propre vie. Comment est-ce que je peux prêcher l'Évangile s'il y a du péché dans ma vie? Comment est-ce que les choses peuvent aller bien dans nos églises s'il y a du péché dans nos vies? Baba a souvent dit, mets un cercle autour de toi et tu démarres au milieu du cercle. Et nous avons vu cela dans la vie de Baba. Et nous avons vu ce que Dieu a fait au travers de lui. Et cela devrait inspirer chacun d'entre nous. Baba nous a également enseigné que nous avons besoin de l'Esprit Saint. Bien sûr, s'il y a du péché dans nos vies, nous ne pourrons pas avoir l'Esprit Saint. Mais il nous a enseigné que nous avons besoin de l'Esprit Saint. Un jour, je me suis rendue vers Baba. Je devais prendre une décision. Et j'étais pas très sûre de ce que je devais faire. Et je lui ai demandé, Baba, qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation? Et il m'a dit la chose suivante. Tu pries et tu demandes au Seigneur ce que toi tu dois faire. Et je vais regarder aux résultats, aux conséquences de ce que tu fais. De la décision que tu vas prendre. Si le fruit est bon, alors je vais te féliciter. Mais si le fruit le fruit de cette, ta décision est mauvaise et sont mauvais, alors je vais pointer, tendre le doigt vers toi. Quels sont les fruits qui découlent de notre vie? Entre parenthèses, tout le monde est un prédicateur. Une fois, j'ai demandé à Baba qui sont les prédicateurs. Il a dit, que tu sois un enfant, que tu es la femme d'un pasteur, ta vie doit prêcher. Et nous pouvons continuer pendant des heures. Il y a quelque chose que Baba nous a enseigné. Ce réveil est appelé le réveil parmi les Zoulous. Nous, Blancs, nous avons souvent un problème avec notre tête. Et Baba nous a enseigné que tes parents, tes mamans, tes oncles, tes tantes sont les Noirs. Et nous avons appris de cela. Et ensemble, nous voulons servir le Seigneur. Alors que nous sommes tenus devant vous, c'est notre désir de suivre dans cette vie. Que cette vie que Dieu nous a enseignée. Puisse le Seigneur nous aider afin que nous puissions vivre ce qu'il nous a enseigné. Imaginez s'il y a peut-être 1000 personnes ici qui sortent et vivent cette vie. Notre pays sera un pays différent. Peut-être que le monde va être différent. Maintenant, nous avons entendu. Il n'y a personne qui peut dire « nous ne savons pas ». Il en revient à nous de vivre cette vie. Cela commence ici, dans nos familles, et ensuite nous pouvons changer l'Afrique du Sud. Je vais demander à Baba Doubé s'il peut venir de l'avant pour conclure. Baba Doubé a une grande valeur pour moi spirituellement. C'est une des personnes qui a eu le plus d'influence dans ma vie. Baba Doubé est quelqu'un de très précieux pour certains de mes enfants. Il a fait beaucoup pour mon propre père. Dans les derniers mois avant qu'il décède, et nous pouvons remercier Baba pour le père spirituel et le père physique que tu es pour nous. Juste brièvement. Il y a un proverbe que les Zoulous utilisent qui disent « Le pasteur ne donne pas naissance à un autre pasteur. » Mais ici, nous pouvons voir que cela est erroné. Il donne naissance à d'autres pasteurs. Et je l'ai vu, non pas seulement ici, mais dans d'autres nations, comme Soutou, qu'un pasteur peut donner naissance à un autre pasteur. Donc nous devons changer ce proverbe qui dit qu'un pasteur ne donne pas naissance à un autre. Et lorsque j'ai regardé à tout cela, j'ai vu que cela lui a coûté très cher avant de recevoir ce réveil. Est-ce que tu as vu comment il a crié pour le réveil et tout ce que cela lui a coûté? Et maintenant, ce réveil est le fruit de cela. Je vais juste dire un tout petit peu qu'en 1966, nous étions ensemble lorsque nous avons prié pour le réveil. Et ce qu'ils ont essayé de présenter dans ce film, nous avons vu de nos propres yeux, lorsqu'il a combattu avec Dieu, il a oublié de se raser, il a ressemblé à un mendiant de la rue. Pourquoi? Parce qu'il était occupé avec Dieu. Et alors que j'étais assis, j'ai dit, nous devrions crier, pleurer pour nos enfants. Pasteur Stegen est béni avec sa famille, ses enfants qui servent le Seigneur, qui suivent le Seigneur Jésus, et même ses petits-enfants qui ont donné leur vie à Dieu et le servent. Nous avons vu cela se passer devant nos propres yeux, où ils donnent leur vie à Dieu. Leurs vies sont changées et reçoivent même le baptême de l'Esprit Saint, comme son Jean l'a mentionné. Prions. Seigneur, ce que nous avons vu, qui a été représenté par les enfants et petits-enfants, a été une leçon pour nous tous. Seigneur, je sais que parmi les pasteurs ici et les femmes de pasteurs, chacun a le désir que leurs enfants puissent suivre le Seigneur également. Et Seigneur, nous avons vu ces enfants du pasteur Stegen qui ont grandi devant nous, qui ont vécu une vie de pureté, qui se sont mariés dans la pureté sans avoir une petite copine ou un petit copain. Ils ont libres du péché, qui ne savent pas ce que c'est que de fumer ou de boire ou de faire toutes sortes de choses ainsi. Seigneur, aujourd'hui nous voyons les fruits du pasteur Stegen qui a recherché ta face, qui a recherché en pleurant, en agonie devant toi. Mais aujourd'hui nous voyons le fruit et le résultat de cela. Seigneur, nous te prions pour ces enfants, pour ces gendres, et pour les petits-enfants. Seigneur, qu'ils puissent rester fidèles jusqu'à la fin. Comme l'Assemblée a également la tâche de prier pour ses enfants. Parce que lorsque ces enfants étaient petits, nous avons prié pour eux, nous avons intercédé en disant « Le pasteur Stegen peut vivre la vérité, mais si ces enfants ne suivent pas, cela va à l'encontre de cette vérité. » Et aujourd'hui, Seigneur, alors que nous voyons ces enfants qui vont de l'avant et qui servent le Seigneur, cela nous encourage et nous donne une force de continuer à prêcher l'Évangile. Seigneur, nous prions pour nous-mêmes, pour les pasteurs, nos épouses, nos enfants, que nos enfants également puissent se tourner vers toi et te servir. Ô Dieu, tu es sur le trône, entends nos prières. Seigneur, je sais que c'est le désir de chacun que nos enfants puissent croire en toi et te servir, et même lorsque nous aurons quitté cette terre, que cette œuvre puisse continuer et que nous puissions vivre, laisser un héritage, que les parents, que les enfants puissent suivre dans les pas des parents. Continue à être avec nous pendant cette nuit. Et que tu puisses bénir également les rafraîchissements. Amen.